gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du retour direct après les bandes continues et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Avec ce soir dans les studios, nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Nous avons Fab aussi.
Bonsoir.
Ah mais à la technique j'oubliais, il y a Delphine je crois qui se cache.
Yeah, bonsoir.
Nous avons aussi Laurent qui est là.
Bonsoir.
Mais c'est un vrai n'importe quoi cette émission. Et nous avons enfin nos invités.
J'ai pas de son dans mon micro.
Je ne t'entends pas.
Pas de micro.
Et donc ce soir, nous avons dans les studios, nous avons FX.
Bonsoir.
Et nous avons Clémence.
Bonsoir.
Qui font leur test de voix radio. C'était pas mal. À première vue, c'était.
Merci.
À première écoute, c'était pas mal. Alors, avant d'entamer notre causerie ce soir autour des fixes de Clémence et de l'ouvrage Putain d'usine, en tout cas la réédition de Putain d'usine, on va vous filer quand même les quelques infos pour contacter la causerie.
Tu n'as pas de micro.
et ben voilà. Et ben c'est. Allez, je vais donner les infos pour nous contacter. Si vous voulez contacter la causerie par mail, c'est.
Je suis pas là.
Si tu es là.
Oh, je suis là.
Alors tu peux donner le mail.
Alors le mail c'est lacausericanu@gmail.com.
Et nous avons aussi évidemment un blog où vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions passées.
C'est à blogs.radiocanu.org/lacausserie ou sur le blog des émissions sur radiocanu.org tout simplement.
C'est tout à fait ça. Et nous avons aussi un espace sur un réseau socio-commercial ou commercial et social, je ne sais pas, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez.
Surtout commercial.
Qui appartient à un célèbre marque Z. Donc voilà, vous y retrouverez juste la causerie Canu, il y a juste les podcasts des émissions. Donc si vous voulez vraiment laisser des commentaires et contribuer à tout ça, allez plutôt sur le blog de l'émission.
Et ce qu'on peut dire justement, c'est que le blog, on va le compléter avec ce que FX et Clémence nous ont passé pour qu'on mette ça en ligne. Ce sera fait demain soir tard. Ouais, non, mais soyons honnêtes. Hein. Voilà. Ça, c'est Laurent qui a failli mourir dans le studio. Et ben, merci d'être avec nous, en tout cas.
Merci.
Alors, on va commencer déjà parce que je pense que toutes les auditrices et tous les auditeurs ne vous connaissent pas.
Ah bon?
Ben non. Enfin, malgré votre célébrité immense,
bah ouais, quand même.
Notamment sur les pentes de la Croix-Rousse entre deux rues.
Ça commence un petit peu sévère là.
Entre le 7 et le 30 de la même rue.
Donc déjà, on va commencer par toi, FX. Allez. Qui es-tu donc?
Alors moi, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur. J'ai commencé la bande dessinée en 2000. Enfin, mon premier album est sorti en décembre 99 et j'ai fait, comme je m'y suis mis un peu tard, j'ai tâché de faire un album par an depuis. Donc, je dois avoir une petite vingtaine d'albums à mon actif. Dont Putain d'usine, qui est réédité chez Original Watt.
Ah oui, prononce bien, s'il te plaît, pour la
Original Watt.
Non, mais il est connu quand même, FX. Hein.
Mais oui, il est connu. Mais à la causerie, on fait toujours comme si on les connaissait pas. Non, mais s'il écoutait l'émission, il le saurait, mais.
Papa.
Donc, ouais, bah, On va quand même donner, comme t'as un fan dans les studios, on va lui demander de voir si vraiment il te connaît bien. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'il a fait, FX?
Non, mais moi, je connais pas tant FX que ça. Je connais les livres dont on va parler, là, le putain de usine, la réédition, je la connaissais pas, je l'ai découvert. Très belle. Non, très belle réédition, là. Moi, j'ai l'autre, la première version. Et puis, ouais, c'est ce qui est beaucoup moins bien, tu veux dire, même. Ok. Et non, mais j'ai pas lu beaucoup de BD, si ce n'est l'énormissime Mon ami la Pouffe, qui est, voilà, génial.
J'ai commencé par là, ouais.
Voilà.
Merci.
Et Clémence.
Bonsoir.
Bonsoir. Qui est... super sérieux. Qui es-tu donc?
Moi, je suis graphiste, je suis illustratrice aussi, mais ce soir, je viens en tant qu'Original Watts, donc une petite maison d'édition lyonnaise. On fait principalement de la réédition de bandes dessinées. Mais on commence à faire des histoires originales là, depuis peu. Voilà. Et on a ressorti Putain d'usine.
Ce qui était bien, vu qu'il n'était plus du tout édité.
Exactement. C'est un bouquin qui a 10 ans. Enfin, l'adaptation du coup des fixes du roman de Jean-Pierre, une dizaine d'années, n'était plus édité. Donc voilà, on s'est dit que c'était important. C'était le moment.
Alors, une réadaptation du roman de Jean-Pierre, mais qui c'est ce Jean-Pierre? Non, parce que là, on n'est pas entre potes, quoi.
Vous donnez, ah, voilà. Voilà, donner c'est des trop noms. Sérieux,
voilà,
c'est
enfin, balancer des noms, quelque chose. Donc, ouais, un roman de Jean-Pierre Levaret.
Jean-Pierre Levaret, en effet, ouais, qui est, comme on dit à Rouen, l'ouvrier qui écrit. C'est un type qui s'est mis à écrire sur son métier. En 89, je crois, après un accident du travail, et dont j'ai lu le roman qui m'a bouleversé, disons, allez, carrément, et que j'ai voulu adapter via mon éditeur de l'époque, qui était Petit à Petit, qui me l'a fait rencontrer, Jean-Pierre, pour qu'on travaille ensemble. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais...
Ah, si, c'était bien. Bien.
Ceci, non, je souriais, c'était juste parce que tu avais expliqué comment s'était passé ce truc un peu commandé, mais pas vraiment, enfin, pas commandé par l'auteur ou quoi que ce soit, mais c'était en fait, c'est ton éditeur qui t'a dit, tiens, lis ce bouquin, il est vachement bien, et pour que final tu dises, ouais, j'ai adoré, et ton éditeur te dise, bah ouais, en fait, on cherche juste un dessinateur, et c'est très bien que...
En fait, tout simplement, cet éditeur qui était en même temps mon pote, qu'il est toujours d'ailleurs, me savait que j'étais passé moi-même par l'usine. Donc voilà, il me l'a mis entre les mains en sachant très bien l'effet que ça me ferait, et tout s'est passé comme il en avait rêvé.
Parce que toi, t'as pas fait les beaux-arts alors?
Non. Ah ouais. Non, j'ai arrêté ma scolarité à l'âge légal. Enfin, quand je raconte ça, ma mère me reprend toujours pour me dire qu'en fait, je crois que c'est à 17 ans. Donc, pour ma légende personnelle, je dis que c'est à 16, mais non, je crois que c'est à 17, en fait.
Mais après, mais t'as toujours crayonné, comme on dit.
Oui, ouais. Enfin, je suis un cas typique.
Ouais.
Du petit garçon qui arrête pas de dessiner, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on se dit souvent avec Jérôme, notamment un copain avec qui on partage un atelier, avec Clémence aussi. C'est que tous les enfants dessinent, puis après, il y a ceux qui continuent et ceux qui s'arrêtent, voilà. Nous, on n'a pas arrêté.
Donc, t'es un grand enfant qui dessine?
Voilà. Un vieil enfant qui dessine.
Non, j'osais pas le dire comme ça.
Ça fait un peu sale.
Entouré d'enfants, en permanence.
Ben voilà, il est intenable. Et avant que tu ne boives, t'es moi, j'ai une question à poser. Donc,
merci de me signaler en l'antenne.
Non, mais c'est pour pas que te prendre à défaut. Quel rapport, toi, tu as à la BD? Parce que maintenant, tu travailles dans une maison d'édition? Tu aides dans une maison d'édition?
Non, je fais partie de cette maison d'édition. Et j'ai d'abord bossé pour eux. Et ensuite, j'ai intégré en fait la maison d'édition. Et cet ouvrage-là, ben, du coup, c'est vraiment plutôt mon bébé, en fait, avec FX. Ben, en fait, on partage l'atelier avec FX, comme il disait juste avant. Et c'était du coup assez évident en fait que ça se passe comme ça.
Je précise même comment ça s'est passé. Voyant disparaître une partie de mes bouquins, j'étais à la recherche de gens qui pourraient rééditer ces bouquins. J'en avais à peu près une quinzaine qui sont plus disponibles, qui sont toujours plus disponibles d'ailleurs, notamment le fameux Mon ami la Pouffe. Et alors que j'en avais pas du tout parlé à l'atelier, c'est Clémence qui m'a dit, tu sais, c'est vrai que ce serait bien qu'on bosse ensemble un de ces quatre sur un de tes titres. Et en l'occurrence, comme je cherchais quelqu'un, on a connecté directement, quoi.
J'avais une question technique. Ça veut dire qu'en BD, t'es propriétaire des planches que tu fais?
Oui, en fait, enfin, on reste, mais même dans dans l'illustration en général, oui, l'auteur reste toujours le propriétaire, mais après il vend les droits d'utilisation. Mmh. Quoi.
Parce que Ben Laurent est venu faire les questions techniques ce soir.
Nous on fait les questions de merde, lui fait les questions techniques.
Merci Laurent.
Il faut un tournevis.
Et alors moi ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que alors quand même on va un petit peu décrire ce qu'est Putain d'usine vite fait, parce que on a la chance normalement d'avoir aussi Jean-Pierre après, mais si on le lance comme ça juste ça va faire bizarre, les gens vont pas comprendre. Est-ce que un de vous deux pourrait résumer Putain d'usine en trois phrases?
Je crois que c'est marqué derrière le livre. Non ? Ah ouais, vas-y. C'est toi qui as la voix radio. C'est pas moi.
Et le pire, c'est que je savais que c'était écrit derrière et que vous y penseriez, mais bon, c'est pas grave.
Putain, pourquoi on l'a pas appris par cœur ?
Si le travail était une si bonne chose, les riches se le garderaient pour eux. Vieux dicton castillan.
Voilà. Donc on parle du travail, de la condition ouvrière, on va dire ça comme ça.
Oui, oui. Ouais.
Clairement. Et de ce qu'est l'usine, quoi, comme le titre l'indique, et où généralement on n'est pas forcément aussi heureux que ce qu'on nous montre dans les jolis films où les gens vont à l'usine avec le sourire et qui sont très contents.
Et que c'est la grande camaraderie.
Ouais, on nous montre pas tellement de jolis films avec des ouvriers, quand même.
Ah, c'est rare.
On montre pas tellement de films avec des ouvriers.
Ou quand on les montre, ils sont caricaturés. Mmh. Soit ils sont alcooliques, soit ils sont souriants et heureux de travailler pour leur patron. Non, là, c'est plutôt vraiment la vie de romancer, parce que c'est un roman, c'est ce qu'on, pour être clair, oui, c'est un roman, mais où on croise. La vie, on suit la vie d'une usine et de gens et des horreurs qu'on peut y voir, mais aussi des bons moments.
Ouais, alors c'est avec plein de petits chapitres où chaque fois c'est une tranche de vie en fait à l'usine. Et effectivement, ça va de de la première mort, en tout cas je crois que Jean-Pierre va vivre dans l'entreprise, ça va passer aussi, on va passer par l'instant où on boit des coups, etc., l'instant où on va bloquer l'usine et on va se dire bah non, là on va tout bloquer et on va faire pression sur le patron, et etc. Et c'est vraiment, enfin là aussi, enfin peut-être que ça rejoint FX, c'est peut-être aussi Jean-Pierre, mais enfin moi qui ai bossé un peu dans ces trucs là c'était pas du Céveso et tout ça, mais
moi non plus, hein.
L'usine c'est quelque chose vraiment de spécifique, et je trouve qu'effectivement on est loin de la caricature, on est dans quelque chose de je trouve qui est très gratifiant, enfin je sais pas comment donner, qui donne une existence à une classe qui effectivement sert à plein de gens, à plein de politicards pour se faire du pognon dessus et se faire des voix, mais toujours en les caricaturant. Et là, on est vraiment dans quelque chose, on est dans une sensibilité, on est aussi dans l'horreur de ce que c'est, on est aussi dans cette abnégation où tous les matins, quand le réveil sonne, on se dit juste, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et qu'ils y vont tous parce qu'il n'y a pas le choix et que, enfin vraiment, je l'avais pas lu. Mais j'adore. Merci.
Voilà, la première fois que je l'ai lu, c'était vraiment l'impression d'être tranche de vie, en fait.
Oui.
Et du coup, il y avait ce truc. Effectivement, il y a une sensibilité, il y a tout ça, mais comme dans la vie, et c'est le regard de l'auteur, en fait.
Ouais.
C'est aussi le point de vue des FX, comment il nous a amené ça. Mmh. Mais c'est vraiment des tranches de vie.
Ouais.
C'est du témoignage.
Oui.
Enfin, pour nous, c'est vraiment une BD témoignage.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a un truc original, c'est qu'on voit pas simplement le monde du travail tel qu'on le voit, l'exploitation de l'ouvrier, de la force de travail, mais c'est une usine Céveso, tu disais, du coup, c'est une usine chimique. Donc, non seulement ils perdent leur force de travail, mais ils perdent leur santé aussi. Il y a un double.
Ouais.
Voilà, le patronat, il exploite sur tous les domaines, et du coup, c'est encore plus difficile à lire. Moi, je trouve qu'on se dit, mais les pauvres gars, non seulement ça n'a pas l'air joyeux tous les jours d'aller à l'usine, même s'il y a des moments sympas, mais en plus, ils savent qu'ils s'abîment. Quoi.
Après, ce qui est fort, c'est que t'as quand même des moments de pêche, tu vois, dans le bouquin,
oui,
qui pourraient être vraiment terriblement déprimants. Et en fait, quand tu le fermes, t'as quand même la niaque. Et c'est, je trouve, la force en fait de cette adaptation aussi, quoi. C'est qu'il y a vraiment des moments de jouissance aussi, avec des anecdotes. Il y a une reprise de pouvoir en fait par les personnages, et ça fait vraiment du bien en fait. C'est pas simplement noir.
Non, oui, t'as raison de le souligner.
Ouais.
Parce qu'on allait dire, sinon, mais ne l'achetez pas.
C'est... Ouais. Non, c'est pas noir, surtout qu'ils adorent leur boulot, mine de rien. Parce qu'on c'est un engrenage, on rentre dedans, on y trouve de l'intérêt. Et finalement, on se rend compte que c'est eux qui connaissent leur travail, c'est pas les patrons.
Bah, clairement.
Je veux dire, la connaissance, elle est chez eux, c'est eux qui ont une valeur. Du coup, ça met aussi en avant ça, le fait que la propriété technique, elle est chez les ouvriers et pas chez les cadres ou les patrons.
Ouais. Eh ben moi, je propose qu'on fasse une pause musicale, et après, si la magie de la technique de Canu, mélangée à l'efficacité de Clara, tout ça fonctionne, on aura Jean-Pierre Levaret au téléphone. Voilà.
Mmh. chargé de houblon, je m'en vais jouer au héros, refaire le monde. Mais la révolution, ça tourne en rond. Toujours la même chanson, Bella ciao, ciao, ciao. Faut dire que le vingue est beurré de nanas, pire que d'abord. Quand ça vous embrasse, et guerre en communard, jusqu'à Rabord. La révolution, c'est pour bientôt. À nous le grand soir, Bella ciao, ciao, ciao. Dans les cocardes, tout se déglingue en formule consacrée, politicarde. Mais la révolution, c'est pour de faux. Vas-y, ma jolie, Bella ciao, ciao, ciao. Je me suis réveillé dans une bouche de métro, au petit matin. Le cerveau broyé, je m'en vais au bureau, jouer les pantins. La révolution, elle a bon dos, une balle dans la nuque, Bella ciao, 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 ciao.
Vous êtes de retour sur Radio Canu dans la causerie avec ce soir FX et Clémence en invité, avec des parasites qui viennent parasiter l'émission comme Laurent. Voilà. Mais donc là, on va tenter quelque chose. Voilà, bah ça marche. Oui, il est déjà là. Jean-Pierre, bonsoir. Jean-Pierre, tu nous entends? Jean-Pierre, es-tu là? Oui, c'est ça. On tente quelque chose, mais ça marche pas. Tu nous entends ou pas?
Je n'entends rien. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'entends rien du tout.
Est-ce que tu nous entends? Nous, on t'entend, mais toi, je crois que tu nous entends pas. Ça grésille à mort dans mes oreilles. Est-ce que tu nous entends?
Allô,
non, je crois que Jean-Pierre ne nous entend pas.
Mais lui, on l'entend par contre. Alors, on va essayer un truc encore mieux que ça.
Non, il peut pas t'entendre. Est-ce que
allô?
Ah oui, nous on t'entend, mais tu nous entends pas, donc c'est très problématique. À moins de faire un monologue, ça va être chiant pour toi.
Là, c'est le moment terrible où la technique ne suit pas. Les...
Je crois qu'il en avait un peu marre et je le comprends. J'adore. Bienvenue à Radio Canu.
Les mots de Jean-Pierre.
Mais c'est bon. Bizarre. Ah non, je
En fait, on a disparu le temps
oui,
de téléphone.
Oui, on est d'accord, ouais, hein, on a un peu disparu.
Ouais, c'était assez étrange. Bon, excusez-nous, bon. On va réessayer. Et s'excuser auprès de Jean-Pierre.
Oui.
Voilà. Bon, alors, en attendant, on rappelle que tu es là pour la réédition de Putain d'usine. Donc ta BD qui était sortie il y a 10 ans.
Ah, les aléas de la technique. Allô?
Allô, tu nous entends?
Je vous entends pas, moi. Hein.
Tu nous entends pas. Bon.
Il ne nous entend pas. Il ne sait pas un truc là-haut, appuyer un peu dans quelque chose.
En fait.
Ouais. Allô?
Non, mais Jean-Pierre, je pense que tu nous entends ou pas? Bon. Je crois qu'il ne nous entend pas. Donc là aussi, auditeur, auditrice, tu te rends compte que Radio Canu, ce n'est pas France Inter, ce n'est pas Europe 1, nous n'avons pas les mêmes moyens.
Oui.
Donc.
Et Jean-Pierre a déjà.
Et je me comprends.
Non mais. Voilà. Bon, eh ben.
C'était pas mal.
Ouais, c'était pas mal. On est vraiment désolé, mais c'est hyper, c'est hyper bizarre que ça marche pas.
On va tâcher de le rappeler hors antenne, ouais. Juste au moins pour s'excuser, parce que c'est-à-dire qu'on lui demande de l'appeler à 22h20. Il peut être un peu vénère.
Je comprends. Et là, il ne voudra plus jamais que cette BD soit éditée. Et donc,
vous venez de me brouiller avec mon pote. Merci.
Non, merci. Nous assumons toute cette merde technique.
De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que là, pendant que nous, on va discuter, oui. Je pense que l'un de nous deux va aller à la technique pour essayer d'aider Clara. Laurent est passé
bon,
à la technique.
Renfort, mais c'est... Bon, merci.
Ah, il te dit renfort, j'avais pas vu Laurent qui était passé là. Et ça ne marche pas. Et Laurent étant le maître de la technique de Radio Canu, si c'est lui, il n'y arrive pas. du coup, on est un petit peu dans la merde parce qu'on
non,
avait
on est pas
une
non, on est absu- oui, mais on n'est pas dans la merde.
Bon,
on
va sans Jean-Pierre, du coup.
C'est exactement voilà. Ça. On s'excuse encore une fois. Donc, on est là toujours pour parler de Putain d'usine Kieto, qui est réédité par les
Original Watts.
Original Watts. Yeah, thank you. Et alors, est-ce qu'on peut Laurent, toi qui a ramené justement la première édition et
est-ce qu'on peut comparer, c'est ça?
Mais genre un peu donner les différences, etc. Moi je trouve que c'est on peut
c'est
dire
la
que
guerre, Laurent.
ça ne sera pas la guerre. Non, et forcément la réédition elle est de meilleure qualité. Rien que la première page, voilà, les fumées ont été redessinées, du coup c'est un peu triché.
Non, alors attends.
Il y a une histoire
derrière ça. En fait, si tu veux, c'est parti d'une envie, en fait, d'avoir cette usine qui courait sur l'intégralité, donc première de couverture et quatrième de couverture. Donc, FX a redessiné. Et tu peux dire que, peut-être, c'était pas sous la contrainte, c'est juste que t'as
non,
eu envie,
tout,
en fait.
Ouais. C'est toi qui as eu l'idée, fumé. Et je trouvais l'idée excellente, donc du coup, je l'ai redessiné avec grand plaisir, quoi.
Du coup, ça a amené ce changement de fumée.
Et puis après, à l'intérieur, c'est un peu, voilà, les chapitres sont, voilà, les têtes de chapitres sont en couleur. Enfin, il y a de l'amélioration technique un petit peu.
Ouais, on a fait sauter certains trucs. On a retourné une case aussi.
Ouais.
Tu chercheras laquelle c'est quand tu auras acheté la réédition.
Puis le papier est meilleur, etc. On n'a pas précisé, mais c'est une volonté d'Original Watts de tout imprimer en France.
Ouais.
C'est un des trucs aussi qui m'a séduit dans cette boîte, quoi, de travailler avec des gens qui ont envie de faire un bel objet, puis avec quelques principes, quoi.
Ouais, au-delà du bel objet, en fait, c'est un objet qui va durer, et puis c'est vrai que tout est fait en France, en fait, de la conception, l'imprimage.
Ah oui,
parce qu'en fait, j'étais déjà sur le façonnage dans ma tête. Je vous jure, je suis graphiste, hein, c'est mon métier.
Graphage.
Donc l'imprimage, le façonnage, le façonnerie et
après le graphage.
Le graphage. Tout est fait en France et ça nous permet justement d'être sur la chaîne graphique du début à la fin. Après, il y a aussi le contenu qui a un petit peu changé. On a une préface de Chris et puis une postface de Jean-Pierre et FX.
Ouais.
Voilà.
Bah, tu nous as demandé de parler de cette adaptation, enfin de ce travail avec les 10 ans de recul par rapport à la première édition, donc qui était en 2007. Ça nous a permis chacun d'écrire un texte. C'est marrant d'ailleurs parce que sans qu'on s'en parle avant, Jean-Pierre et moi, on a vraiment écrit l'un sur l'autre, enfin l'un sur ce que chacun avait apporté à l'autre. Voilà. C'est-à-dire que moi, je lui ai fait découvrir le monde de la bande dessinée. Et lui m'a fait découvrir le monde de l'usine parce que je le connaissais, mais plutôt tout ce dans quoi il travaille en parallèle, c'est-à-dire le militantisme anarchiste, libertaire, etc. Enfin, on a pas mal fait de festivals ensemble. Enfin, ouais, voilà, il m'a fait découvrir tout un monde que j'avais survolé, que je connaissais pas très bien, que vous connaissez bien, par contre, et qui m'a beaucoup séduit aussi, quoi.
Et du coup, pour toi, c'était, ça a renforcé ton lien à l'histoire, à la BD, à ce que tu as créé, le fait que ça t'ouvre d'autres perspectives comme ça.
Oui, enfin, non, enfin.
C'était la question France Culture, d'accord.
Non, mais plutôt, je veux dire, le fait, enfin, ça a ramené un truc en plus, quoi. C'était pas juste l'adaptation, et c'est encore déjà énorme de faire une adaptation de roman en BD.
Et pas en roman graphique, parce que t'aimes pas cette expression-là.
Ouais, voilà, toute faite. Voilà. Ouais.
Moi, je l'aime bien. Voilà.
Voilà, et
je me fais engueuler à chaque fois, je suis dans une librairie BD quand je dis ça.
Et donc, du coup, il y a l'adaptation, et puis est-ce que ça t'a apporté en plus? Et si c'était à refaire, tu le préférerais le faire comme la réédition ou comme la première fois? Fâche-toi avec ton
pote. Je crois qu'il y a un problème technique, le micro des fixes ne marche plus.
Fâche-toi avec ton pote aussi.
Faudrait demander à la
graphologue. Ouais. Graphologue.
Ouais. Non, ouais, ça s'est passé de manière tellement particulière. Moi, c'est avant tout que cet album sorte au début chez Petit à Petit ou chez Original Watts. Ce qui est avant tout important à mes yeux, c'est que quand j'ai lu le roman de Jean-Pierre, je me suis pris une bonne baffe dans la gueule. Et c'est marrant, c'est une des premières fois que ça m'est arrivé, parce que j'ai adapté d'autres choses en bande dessinée, mais au fur et à mesure que je lisais le roman, j'avais les images qui venaient naturellement, quoi. Et pourtant, Jean-Pierre ne décrit absolument rien, ni les physiques, ni les décors, ni quoi que ce soit. Il est assez sec dans son écriture. Et d'ailleurs, au téléphone, ça aurait été marrant qu'il le raconte lui-même. Mais il raconte souvent que les personnages qu'il décrit absolument pas physiquement dans son livre, à chaque fois que je les ai dessinés, ils ressemblent à ceux de la réalité dont il s'est inspiré. Donc, c'est la magie du truc, quoi.
Et en fait, moi j'ai trois BD là avec les FX et Le Varay, et là c'est une première édition. C'est prévu de rééditer aussi les autres, ou c'est je suis là parce que ça a eu le plus de succès?
C'est pas tant en termes de succès, c'était celui-là. On est une toute petite maison d'édition, c'est compliqué, enfin, pour nous de. On fonctionne pas mal avec la réédition de BD, qui est vachement courue par certains collectionneurs, enfin, ça nous aide à tourner. C'est vrai que, putain d'usine, n'est-on pas collectionné ou quoi, c'est vrai que c'est compliqué. Après, pourquoi pas, en fait, hein.
Parce que tu ton patron, qui est le troisième top. Rien qu'au nom, moi, quand je l'avais vu dans ma librairie de BD habituelle, Je salivais déjà, j'avais déjà envie d'aller voir s'il allait jusqu'au bout. Et
en plus, il avait cette particularité que quand Jean-Pierre a écrit le roman, c'était la première fois qu'il savait qu'il serait adapté en bande dessinée par moi après. Donc il l'a écrit avec plein de clins d'œil à ce qu'il savait que j'allais faire, quoi. Donc c'est,
ne
c'est...
raconte pas la fin.
Ouais, non.
Son patron. C'est trop un plaisir. Pardon.
Je fais une dédicace à Marie-Ange qui nous écoute ce soir et qui raconte tout le temps la fin des bouquins et des films. Donc Marie-Ange, bonsoir.
Et oui, donc du coup, il y aura que celui-là de rééditer.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Pour l'instant.
Et mais d'ailleurs, moi, ça m'interroge sur comment on le trouve.
Eh ben, on le trouve. Oui. On a une boutique depuis le mois de décembre. Une boutique en fait où on vend nos bandes dessinées, mais pas que, on vend des petites maisons d'édition aussi, enfin pas les petites maisons d'édition mais les BD. Il est tard aussi pour
oui,
moi.
C'est pas grave.
Et des disques en fait, des disques vinyles principalement. Voilà, en fait on a fusionné avec Xav qui est le frère de David qui est Original Watts et qui est disquaire à la base de la ville de Lyon, donc il fait les marchés. Et on s'est dit que c'était plutôt pas mal en fait de tout rassembler dans une même petite boutique qui est rue des Capucins, pas très loin de Radio Canu du coup, 3 rue des Capucins. Et du coup vous pouvez la trouver là-bas. Après, on commence à la distribuer en librairie. Il y en avait un exemplaire à la Griffe qui s'est vendu la semaine dernière. Donc il y en aura un autre la semaine prochaine. Mais enfin voilà, enfin pour le moment, c'est vrai que la distribution, c'est un peu compliqué.
Il est chez Expérience, il est à la BD.
Oui, voilà, c'est ça.
Chez tous les libraires spécialisés de Lyon, ouais. En tout cas.
Même chez Expérience, ça suffit. En fait, il n'y a qu'une librairie de BD ou grand public où il faut aller.
J'ai rien le droit de dire. Jean-Louis, Nico, on vous embrasse.
Jean-Louis, on t'embrasse.
Voilà, ça c'est la soirée des embrassades.
Oui, c'est la soirée des copains, je sais pas.
Et mais alors donc du coup, ouais, donc dans la boutique, dans certaines boutiques et à la boutique de Original Wax.
Ouais.
Voilà. Par correspondance ou pas?
Ouais, par correspondance.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils sont pas forcément à Lyon.
Ouais. Et si tu es à Miami, tu peux commander. Ah, je sais pas, remarque Miami.
Miami.
Si normalement si. Non, mais oui, il y a un site internet en fait, originalwax.com, et vous pouvez le trouver dessus en quelques clics.
Ben voilà.
C'est utile de le savoir.
Bah oui, parce qu'on a peut-être des auditrices ou des auditeurs pas trop d'ici.
Alors, je me permets quand même de préciser aussi qu'après il est quand même distribué par Macassar et que
ouais, c'est
a
en train
priori,
en fait,
devrait,
enfin, ça va débuter là, c'est ouais. Pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'était pas encore opérationnel.
Mais donc enfin dans les mois à venir
ouais,
priori,
normalement
on devrait
ça devrait
pouvoir se répondre. Partout,
ouais.
On fait une petite pause, et ben, ça permettra de rappeler Jean-Pierre pour s'excuser. Et puis on se retrouve juste après.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the sea.
My love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town.
Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Nous sommes toujours en compagnie d'Efix et de Clémence. Et on est toujours autour de ce que crée Efix et aussi de putain d'usine quand même plus spécifiquement. On vient de réaliser qu'on vous a même pas dit ce qu'on écoute depuis avant. Alors là, on vient de s'écouter
les Pogues.
Yes. Yes. Et juste avant, c'était Alias Blob. C'est bien ça?
Ouais, ouais. C'est un pote, Pierrem Tinet, qui vient de sortir un triptyque génial, je trouve. Voilà.
Et le titre, c'était Le Grand Soir.
Et si vous voulez connaître mieux Alias Blob, vous allez sur les blogs de Radio Canu à musique, etc. Vous tapez Alias Blob et voilà, vous aurez toute l'histoire du triptyque.
Ah ben, voilà. Et ben voilà, le monde est petit.
Parfait.
Et alors moi, je me permets une question que j'avais posée avant en prépa, enfin pendant qu'on mangeait. Je donne tous les détails.
Et en fait, 22h.
Et en fait, alors je sais plus si vous en avez parlé ou pas, mais toi en tant qu'auteur, dessinateur, scénariste, est-ce que ça t'embête de faire un retour comme ça 10 ans en arrière, parce que la BD, c'est ce qu'on disait, elle a 10 piges,
ouais.
10, 11 ans maintenant.
Ouais.
Est-ce que toi, ça te, enfin, est-ce que c'est un peu, je sais pas, frustrant en se disant, non mais enfin, j'ai fait d'autres trucs depuis, ou est-ce que il y a un plaisir de se dire, non, continue d'exister.
Non, je suis super content que ce titre existe, parce qu'en plus il avait la particularité d'être tout le temps présent chez les libraires, alors à très peu d'exemplaires, ça a jamais été un hit, mais simplement voilà, c'était un bouquin de fond comme on dit quoi. Donc je suis très content qu'il continue à exister, en espérant qu'il reprenne sa place de fond. Après, pour répondre à ta question plus précisément, moi j'ai un rapport, mais comme beaucoup de gens, avec leur propre travail, qui est assez compliqué.
C'est-à-dire
ou très simple, parce que justement il est tellement, c'est tellement commun que c'est assez simple. Finalement, on a, j'ai beaucoup de mal avec l'évolution de mon dessin. Voilà, quand je me retourne sur mes dessins précédents, j'ai toujours l'impression de voir des dessins d'enfants par rapport à ce que je fais aujourd'hui, sachant que ce que je fais aujourd'hui, quand je le regarderai demain, je trouverai que c'est des dessins de merde. Voilà.
D'ailleurs, nous, quand on les regarde, non, rien.
Tout le monde confirme. Mais...
c'est vrai. Mais des gens qui disent bonjour à Radio Canu.
J'aimerais dessiner aussi mal.
Oui, moi aussi. D'ailleurs, moi, je voulais souligner quand même, parce qu'on en a pas parlé, la qualité graphique qui est dans Putain d'usine, parce que c'est, y a effectivement des choses qui ont changé entre la première et la nouvelle édition. Mais il y a quelque chose, moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment, touché, je dirais. D'abord, c'est le jeu avec la palette de noir et blanc, de gris, qui justement je trouve rend extrêmement bien l'ambiance qu'on peut avoir, y compris dans une usine. Je vais dévoiler quelque chose ce soir, j'ai bossé 15 ans en site Céveso, donc ça me parle totalement. Et il y a une deuxième chose que j'ai trouvé, enfin là que j'aimerais que tu m'expliques, c'est que tu joues beaucoup avec les transparences en fait par moment, et c'est assez rare en BD en fait quand on regarde bien. Souvent les dessinateurs de BD ils se font pas trop chier avec ça parce que c'est voilà, c'est un peu voilà. Et toi ça, j'ai l'impression que tu aimes bien aller là-dessus, et je me demandais pourquoi en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que dessinateur?
Il faudrait que je me remette dans l'état d'esprit du moment où j'ai fait cet album, et je peux pas répondre très précisément. Ce qui me vient à l'esprit, c'est simplement que quand j'ai fait Mon ami la pouffe, je voulais faire un truc très cinématographique. Donc j'ai utilisé même parfois à outrance des flous au premier plan, enfin toute une débauche d'effets Photoshop qui me permettait de ressembler beaucoup au cinéma ou à la photographie. Et je sais que quand j'ai abordé Putain d'usine quelques années après, j'avais envie de continuer dans cette voie-là, mais justement en essayant d'alléger un peu le trop-plein dans lequel je m'étais lancé avec mon ami Lapouf. Donc en tant qu'amateur aussi de bande dessinée, j'aime bien les choses où il y a énormément de détails à voir.
Parce que c'est, enfin, quand je parlais de transparence, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des effets de détails sur plusieurs niveaux, ouais. Et du coup, ça, enfin, t'as des moments, t'as l'impression presque de voir une photo, quoi. C'est ça que je trouve.
Alors ça aussi, ça par contre, je m'en souviens très précisément, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment avec Jean-Pierre que ça sente la vérité, quoi, la réalité, ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Et lui il décrit une certaine réalité avec ses mots, et moi il fallait qu'avec le dessin j'arrive à retranscrire ça. Donc j'ai travaillé avec tout simplement une banque d'images de Jean-Pierre. Il a photographié l'usine sur laquelle il est resté pendant 40 ans, hein, donc il est resté dans la même, au même poste, donc voilà, j'avais des centaines et des centaines de photos, quoi. Et voilà, les personnages sont Disney 1, comme on se l'est dit aussi tout à l'heure, et à la limite de la caricature, mais on voulait que les décors soient le plus réaliste possible.
Et c'est justement, enfin moi je trouve que c'est magnifique en fait, c'est toutes ces machines, tous ces tuyaux, toutes ces vannes, tout ce, enfin moi je trouve que oui, on y est, quoi, enfin vraiment. Et c'est aussi je crois ce que Jean-Pierre dit, c'est qu'il y a une forme de beauté en fait dans ces usines. Et c'est, moi j'ai toujours été fasciné par toutes ces tuyauteries. Je trouve que c'est toujours, tu te demandes jusqu'à où ça va et d'où ça part.
Bah t'as vu, il suffit de passer devant Faisin la nuit et t'es dans Alien. Enfin,
c'est exactement ça. Et c'est, il y a une beauté dans l'horreur aussi, qui est quand même aussi, enfin ce que représente quand même toutes ces usines et c'est toute cette industrie, quoi. Et c'est enfin bon, je suis emballé, quoi.
C'est ce qui explique ce qu'on vit souvent lorsqu'il y a un site qui ferme. C'est-à-dire que les gens sont entre guillemets libérés du boulot qui est dur, qui est rude, qui est voilà. Et en même temps, quand on voit l'usine être détruite, ça fait mal parce qu'on se dit tiens, c'était quand même l'usine, quoi. Mais c'est très étrange. Hein,
c'était un lieu de vie, quoi. C'est vraiment ce qu'on retrouve. Et c'est, alors, peut-être qu'on part un peu au-delà du dessin et tout, mais et c'est vraiment ça ce qui est décrit dans le bouquin et enfin dans la BD qu'on retrouve. C'est toute cette presque cette schizophrénie en fait, c'est-à-dire que le travail tue, on le sait, on le voit à plusieurs reprises dans le livre et de manière pas gore mais réaliste, quoi. C'est-à-dire quand des corps sont carbonisés, ils sont carbonisés, quoi. Et qu'en même temps il y a aussi effectivement ce qu'on disait avant, c'est que les ouvriers ils aiment quand même leur truc parce qu'en même temps faut se trouver un peu une raison quand même de se lever tous les matins. Et c'est justement toute cette dichotomie, etc., qu'on retrouve vraiment, mais à merveille. Vraiment à merveille. Et aussi avec... Quoi, Laurent, il me caresse. Mais arrête de me caresser. Il veut me calmer. C'est comme ça. Je suis désolé. Je suis un petit peu emballé par ce truc parce que je voulais dire un truc et tu m'as coupé. Mais et qu'on trouve aussi, justement, il y a pas une glorification. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas dans la glorification. Il désigne aussi, en fait, les choses qui vont pas forcément super dans l'équipe. Des fois, la consommation de substances, parce que, et qu'elle soit alcool ou médoc ou autre, parce que,
il faut tenir,
c'est mais exactement oui. Ça.
C'est le glissement des relations avec les technologies qui arrivent. Il y a aussi ce glissement-là qu'on sent. Enfin, il est léger, mais on le sent quand même. Quoi.
Oui, et aussi...
Le rapport des hommes, du coup, entre...
C'est ça, le rapport entre tout ça. Et il y a un truc aussi, c'est autour de 36, où il dit... Les congés payés nous ont aussi foutus dans la merde. Non, alors, j'imagine bien que Le Varay ne partage pas du tout le principe qu'il ne faudra pas de congés, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il faudrait qu'on inverse, 5 semaines de travail et le reste de libre. En tout cas, c'est ce que je pense. Et merde, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mais
c'est en fait ce qui est faut voir pour moi dans Putain d'usine, est-ce que tu retranscris bien par le côté graphique, parce que on l'a dit avant, enfin quand on a discuté avant l'émission, en fait il y a des gens qui vont être plus roman, et moi je conseille vraiment aux gens de lire le roman de Jean-Pierre Le Varay, parce que c'est vraiment un bouquin qui apporte beaucoup. Et je trouve notamment, je fais un petit tacle, mais les gens qui croient connaître ce qu'est le monde ouvrier, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine, ben, lisez le roman, comme ça vous allez comprendre ce que c'est qu'une usine, et peut-être comprendre ce qu'est le monde ouvrier, que c'est pas monolithique, que les gens sont divers, qu'il y a des gens, il y a des cons aussi chez les ouvriers, même s'ils sont ouvriers, voilà. Et puis il y a des gens très bien, enfin voilà. Et toi, t'amènes la part graphique. Il y a des gens qui sont beaucoup plus graphiques, qui sont beaucoup plus sur la BD. Donc c'est deux angles d'entrée, en fait, mais qui ont, et tu parlais tout à l'heure de BD témoignages,
ouais,
mais qui ont cette force-là. Et pour moi, je trouve assez chouette parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans les mains d'à peu près n'importe qui. Enfin, non, pas d'un enfant de 3 ans pour qu'il colorie, parce que c'est en noir et blanc, mais c'est pas
pourquoi
la
peine. Pourquoi pas? Pourquoi
après,
pas
parce qu'après t'en rachètes une, c'est pour ça que
tu non, pas du tout.
Oh. Non, tout de suite. Oh. Non, mais voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, c'est un témoignage de 40 années de, ouais, voilà, de vie ouvrière. Et pas avec le, voilà, comme tu disais, pas avec le côté ni pathos, ni le côté, c'est génial, avec le côté humain. Et c'est assez rare quand même, quoi.
Et dans cette humanité, il rappelle d'ailleurs, et dans le roman, et du coup, j'en parle aussi dans la bande dessinée, qu'il n'y a pas eu de bon vieux temps, quoi. Tu parlais de
comment j'ai payé
et tout ça, faut arrêter de triper sur ces images d'Épinal, quoi.
Oui.
Et bien, non seulement là je le dis, c'est que tu le retranscris, toi, graphiquement, là-dessus, moi j'ai trouvé, il y avait des notions de ce que j'appelle la sueur qu'on voit perler. C'est-à-dire, c'est le moment où d'un coup, on se dit, ah là là, bah oui, il y a 20 ans, bah, il y avait du travail pour tout le monde et c'était vachement bien. Et bien, en fait, oui, enfin, il y avait surtout des gens qui allaient se tuer à l'usine, ouais, et qui sortaient, qui étaient morts et qui, voilà, enfin. Et alors, il y a du travail pour tout le monde. Est-ce que c'était bien l'idéal? Voilà. Et je trouve que dans la façon dont tu le dessines, justement, ça, on le ressent. C'est-à-dire que il y a pas besoin de mots. C'est-à-dire que c'est, voilà. Et ça m'a rappelé le roman, en fait. Mmh. Parce que, Jean-Pierre écrit avec des phrases très courtes et très, très peu descriptives, comme tu le disais. Mmh. Et finalement, ton dessin qui devrait être de la description l'est, mais il y a des choses que tu n'appuies pas, mais qui se voient extrêmement bien. Voilà.
Bah, tant mieux, super. et Jean-Yves parlait de schizophrénie, et c'est vrai que, par exemple, on peut qu'avoir un vœu, c'est que la France, enfin, en tout cas, le pays où on vit, se désindustrialise. Et en même temps, se désindustrialiser, on a bien vu la gueule que ça prend, ça veut dire plus de boulot, etc. Donc c'est un peu inextricable, tous ces trucs, quoi.
Et en même temps, alors, on dépasse encore tout le champ du dessin, etc. Mais je trouve que c'est aussi ça que ça amène, ces œuvres-là. C'est que Jean-Pierre, et je partage vraiment son avis, c'est qu'en fait, il faudrait une automatisation de toutes les tâches ingrates. Parce que c'est facile de dire, il faut du travail, des industries. Mais allez foutre vos mains dans le cambouis, allez sentir toutes ces odeurs de merde, allez vous pourrir les poumons, le cœur et tout le bordel. Ben non, en fait. On va se dire, tant mieux si on peut automatiser. La problématique, c'est pas l'automatisation des outils. C'est le gain, la productivité, c'est dans les poches de qui que ça va, en fait. C'est ça la question. La vraie question, je pense qu'elle est là.
Et
la répartition des richesses.
Le piège aussi dans lequel ils sont, c'est qu'ils sont quand même très bien payés. Enfin, tu perds ta vie à la gagner, hein, comme il dit.
Mais oui.
Mais n'empêche que pendant que t'es vivant, les quelques années où on te laisse vivre,
c'est ça.
Tu gagnes très très bien ta vie.
Oui. Et moi je voulais revenir sur un truc parce que en fait ça décrit beaucoup le monde ouvrier et il y a un côté quand même très politique et qui est pas du tout traditionnel parce que si on parle du monde ouvrier des années 60, on pense au Parti communiste, tout ça. Alors c'est pas du tout la couleur politique du livre, ce qui est génial.
C'est très noir.
Ouais, voilà, c'est très noir pour la couleur politique. Et toi,
le drapeau.
Toi, quand t'as lu le livre, quand tu t'es dit c'est un univers que je connais, est-ce que tu connaissais vraiment le mouvement anarchiste et comment, enfin. Quelle impression ça t'a fait, toi?
Non, je connaissais pas. Enfin, je connaissais mon cœur allait vers ça naturellement depuis l'adolescence, mais avec justement cette impression que ceux qui continuaient dans cette voie-là avaient une adolescence éternelle, comme celle que je m'offre. Donc voilà, ça me dérangeait pas, mais voilà, j'avais cette image un peu peut-être naïve de tout ça. Et c'est vraiment un monde que j'ai découvert avec Jean-Pierre en faisant toutes sortes d'interventions, de rencontres, de dédicaces, et je connaissais pas du tout avant. Et moi, vraiment, j'insiste là-dessus, ce qui m'a touché quand j'ai lu le bouquin et qui m'a donné envie de l'adapter, c'est aussi le miroir que ce type me tendait si j'avais pas quitté l'usine, en fait, autour de 20 ans, enfin 18-20 ans. Et voilà, un type qui reste pendant 40 ans dans un truc où il a pas envie d'être, enfin, ça m'a bouleversé, quoi.
Ouais. Est-ce qu'on comprend? Pardon, Laurent, il arrête pas de me piquer mon joujou. On fait peut-être une petite pause musicale. On se retrouve pour la dernière partie. Et alors, c'est un vinyle. Allez, c'est bon. Thank you.
Et vous êtes de retour sur Radio Canu dans la causerie au 102.2. Et nous avons ce soir des invités avec FX et Clémence. Et tu as choisi un titre qui est un petit peu une BO qui n'est pas une BO.
C'est une BO qui n'est pas une BO, voilà, effectivement.
Et donc, qui est ce groupe étrange?
Alors, c'est un groupe italien, Calibro 35. Et on va pouvoir faire une pirouette sur un projection, d'ailleurs, là-dessus. C'est qu'ils font des BO de films. En fait, ils ont commencé par faire des BO de films, des reprises. Et ils ont fait des films fictifs, des BO de films fictifs. Et ce morceau est issu de l'album Space, qui est franchement vachement bien, que je vous conseille, qu'on a rentré à Original Watts, et c'est pour ça que je le connais, mais c'est mon exemplaire perso. Je fais de la pub, mais bon...
Tu le revends pas, en fait, c'est ce que tu veux dire?
Ah non, celui-là, non. Mais il y en a à la boutique. Venez.
3 rue des Capucins. Et c'était quoi la pirouette?
C'était les improjections.
On pourrait faire une pirouette. Mais...
Oui, c'est vrai qu'il y a deux pages qui sont consacrées dans cette réédition à un projet qui a été presque d'ailleurs qui a participé aux impulsions de cette réédition, c'est un groupe qui s'appelle Improjection, qui a adapté la bande dessinée de manière absolument géniale, c'est-à-dire qu'à partir de mes images, de mes pages, Fred, le guitariste qui est en même temps un dessinateur un peu touche à tout. A fait du dessin animé. Donc ils ont pas fait la totalité de l'album. À chaque étape, ils ajoutent une petite histoire. Je sais pas si un jour il y aura la totalité de l'album, mais en tout cas, on va dire qu'il y a 5 ou 6 portraits, histoires de l'album, du dessin animé en fond, et puis 4 guitaristes et un comédien. Le comédien ayant retaper un peu dans le roman initial aussi pour ajouter d'autres choses, enfin une voix, la voix de Jean-Pierre, enfin en gros il endosse le costume de Jean-Pierre. Et c'est voilà, c'est une perle. Ça a beaucoup tourné. J'espère que ça va continuer à tourner. En tout cas, il y a eu 25 dates en 2017. Et j'espère que sur 2018 ce sera aussi bien, mais ouais, c'est vraiment un truc à aller voir. Et puis ce que je dis souvent, je peux me permettre de dire que c'est génial parce que finalement j'ai rien fait, franchement, sans fausse modestie ni quoi que ce soit. Ils sont vraiment emparés du truc et ils ont fait leur sauce à eux, et je trouve que c'est là aussi un objet difficile à définir mais magnifique.
Ouais, moi, je peux confirmer, enfin, pour les avoir vus, c'est difficile de rester assis, en fait.
D'accord.
C'est vraiment, ça prend aux tripes et ça amène encore un nouveau regard sur la bande dessinée. C'est une autre dimension.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu te retrouves, toi, FX, dans la position de Jean-Pierre Levar, un petit peu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va saisir de ta création, de ton œuvre d'adaptation, et qui va encore une fois créer à nouveau quelque chose. Enfin,
ça ramène un tel truc sur cette BD qui est sourde. Enfin, il y a un truc sourd, quoi. Le bruit qui va, on imagine quelque chose de très sourd, en fait. Et la musique, enfin, ils sont très très balèzes. Et la pirouette, c'est parce que eux-mêmes jouent sur des films, font des BO en direct. Voilà.
Improjection, c'est, enfin, le nom du groupe et la formule, c'est monté autour de ce concept-là, justement, de re-sonoriser des bandes son de films cultes. Alors ça peut être Roger Rabbit ou un film d'horreur japonais de 75, enfin c'est des gens excellents, quoi.
Et alors, c'est des Lyonnais ou c'est moi qui ai fabulé? Non, oui, c'est ça, c'est des Lyonnais. Ouais.
OK. Et moi, du coup, là, ça a été facile de laisser ta BD être adaptée par eux?
Complètement, vraiment. En plus, Fred a un tel talent. Enfin, ils ont tous du talent, mais c'est Fred qui s'en est vraiment emparé dans un premier temps. J'avais un respect et une confiance totale en ce qu'il pouvait faire.
Et dans le même ordre, ça a été facile de travailler avec Jean-Pierre pour adapter le roman?
Ouais, très. Il avait un regard ultra positif sur tout ça. Dans un premier temps, il a essayé de faire un storyboard, mais qui était, il dessine pas, donc du coup, il faisait des cases et il mettait ce qu'il y avait dedans, il écrivait ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il espérait que mes dessins remplacent ses mots. Donc en fait, il n'y avait plus aucun de ses mots. Et c'était ses mots que je voulais adapter en bande dessinée. Donc au bout de quelques pages, je lui ai dit, viens, je vais le faire moi. Et puis par contre, il validait au fur et à mesure les pages. Et à part sur le deuxième volume, parce que je l'ai adapté 3 fois, en fait, Jean-Pierre. Putain d'usine. On va dire qu'il y a un terme générique, putain d'usine 1, 2, 3. Le deuxième s'appelle Les fantômes du vieux bourg. Et le troisième, Tue ton patron, dont Laurent a parlé tout à l'heure. Je sais plus.
Storyboard, adapter ses mots.
Oui,
c'est
voilà.
Oui, disparu, merci, t'as voilà, retrouvé exactement. Ses mots. C'est bon.
Je me suis chargé moi-même à chaque fois de reprendre, enfin de faire le truc de A à Z, quoi. C'était ça.
C'était très bien. C'était
très bien. Très bien.
Et nous terminerons l'émission sur cette conclusion-là.
Ips.
Mais du coup, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des messages à passer? Rappelez peut-être déjà le site internet, le lieu où on peut trouver tout ça.
Ouais, alors, ouais. Originalwatts.com. Watts, ça s'écrit W-A-T-T-S, comme les quartiers. Watts. Los Angeles.
Ou comme les Watts.
Non.
Non, il n'y a pas de S à Watts. Des...
Ok, pardon. Oh.
Et c'est 3 rue des Capucins. Et d'ailleurs, on reçoit FX le 23 mai dans le cadre de la Fabrique du Livre, le festival. Et c'est pour un goûter rencontre avec FX autour d'un verre de 15h à 19h. Mais vous pouvez nous trouver sur originalwatts.com. Il doit y avoir un Facebook. Sans doute bientôt un Instagram. Je ne sais pas. Je ne m'en occupe pas.
Pas je très réseaux pas sociaux, ma Clémence.
Non, pas trop.
Par contre, FX, toi, tu es sur les réseaux commerciaux et sociaux. Non, j'ai vu Facebook. Oui,
voilà.
On peut t'y retrouver et suivre un peu ton actu, etc.
Ouais.
Et c'est FX.
Robert, comme mon nom de famille.
Ah, ok.
Ouais, en fait, c'était FX bande dessinée. Et puis, très récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un mail culpa d'un type. Et donc, ils ont revu un peu les termes de Facebook pour ramener ça vers quelque chose de plus personnel et de moins professionnel. Et comme je m'en servais uniquement de manière professionnelle, c'est passé de FX bande dessinée à FX Robert, mon nom de famille.
Moi, je trouve ça mieux.
Ouais.
Ok.
C'est parce qu'elle aime bien les Robert.
Oh. Ou Ips.
On sait plus trop. Et il y a d'autres lieux où on peut te retrouver dans les jours ou les mois qui viennent.
Ce week-end, je suis à Eure dans un festival dont j'ai fait l'affiche et avec pas mal de copains, dont les frères Jouvray avec qui on partage l'atelier justement avec Clémence aussi et d'autres copains mais qui me reviennent pas là tout de suite. Et puis assez régulièrement, ouais, je fais beaucoup de salons et de festivals. Quoi.
Et c'est parce que tu connais bien les frères Jouvray qu'il y a les deux personnages, le diable et le dieu de Lincoln, qui apparaissent dans une des planches. Je sais plus dans lequel d'ailleurs, peut-être dans le deuxième ou le troisième.
Je crois qu'ils apparaissent aussi dans Mon ami la pouffe. Hein, donc
ils apparaissent aussi dans Putain d'usine, Olivier. Olivier, de manière très détournée, Olivier, on le voit sur une fiche de paye.
Mais c'était presque un jeu, c'est-à-dire que on s'amuse un peu à se mettre sur la gueule par bande dessinée interposée, notamment dans Mon ami la pouffe, les deux frères attendent un des personnages à l'aéroport et se font défoncer comme des porcs. C'était ma vengeance parce que dans Lincoln, avec l'arsenet, on se fait défoncer à coups de pelle, enfin surtout moi. Donc voilà, c'était ma petite vengeance.
Mais t'as une affiche de Jérôme dans Putain d'usine aussi. Non
oui, ouais. Oui, de l'idole dans la bombe. Ouais. Ouais. Ouais.
Il y a l'an 01 aussi.
Oui, de GB ouais, avec un dessin devant moi là.
Ouais.
Et ben voilà, merci d'être.
Oui, tu ouais, moi je voulais dire merci à Mathieu Rebière parce qu'il nous a mis en contact. Donc merci Mathieu, et puis je voulais aussi embrasser Sabrina.
Et voilà. Juste pour rappel, Mathieu, c'est parce que comme ça, tout le monde ne le connaît peut-être pas.
Quoi?
Mais en tout cas, on l'avait reçu à la causerie en compagnie.
Il y a pas
en...
très longtemps.
Oui, il y a pas très longtemps. C'était pour la BD, la collection de BD, on va dire, Les Rues de Lyon. Ouais. Et eux, c'était, enfin, lui et son compère, c'était autour de la guerre d'Algérie à Lyon. C'était ça.
Causerie 242 du 4 mars 2018.
C'était ça, avec Adrien.
Voilà,
c'est exactement ça. Et effectivement, on le remercie.
Ouais, merci Mathieu.
Merci de mettre en lien et tout ça et tout ça. Et Laurent, le fanboy, est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Parce qu'on a beaucoup parlé de Putain d'usine. Je sais que les deux autres sont pas bien édités. Les fantômes du vieux bourg et Tue ton patron. C'est très très différent. Chacun a une personnalité propre. Et ça vaut vraiment le coup de lire les trois, moi je trouve. Même si le plus fort, c'est forcément Putain d'usine. Voilà, ça vaut le coup de lire les trois. Puis Mon ami la pouffe aussi en passage. Voilà, mais ça n'a rien à voir, mon ami la pouffe. Mais c'est très bien aussi.
Merci Laurent.
Toujours avoir un fanboy avec.
FX te donnera ta petite enveloppe juste après. Si on peut faire ça après l'émission.
Oui, une fois qu'on aura coupé les micros.
Mince.
Eh bien,
on va se quitter avec quoi?
Alors déjà, je veux juste quand même, parce qu'on est à la bourre, mais quand même donner juste, d'habitude on termine avec des brèves, mais juste donner un rendez-vous la semaine prochaine, le 1er mai, dans la rue, manifestation, voilà, viendez, parce qu'il faut absolument s'en occuper.
10h, Jean-Massé.
Merci pour tout ce complément d'information.
Ah oui, merci.
Merci à vous deux, à vous trois, à vous quatre.
Tu n'avais pas un coucou à passer, un bonjour, parce qu'en fait,
j'embrasse Natacha forcément. Hein.
Bah voilà. Et ben, allez,
moi aussi, je l'embrasse, Natacha.
Et moi plus.
Bon, d'accord.
Eh bien, on va se quitter avec The Beatles et le titre Happiness is a Warm Gun. Et on rappelle vite fait que quand même toute la playlist a été choisie par nos invités, comme à chaque fois. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine à venir et à la semaine prochaine. Merci Laurent Delphine, qu'on entend dans le Canu Info du jeudi, et Laurent aussi dans l'émission Noise Pollution le vendredi, toujours sur l'antenne de Radio Canu, parfois la plus rebelle. Ciao.
Salut.
Salut.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.